Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour Corinne, bonjour tout le monde.
Nous allons aborder le concept de pudeur aujourd'hui dans Asialogie.
Oui.
Nudité, digestion, bien-être.
D'accord.
J'en passe, hein, seront au cœur du sujet.
D'accord.
Et nous donnera à réfléchir d'ailleurs comme le contenu de ta chronique Didier, puisque vas nous expliquer ce que sont les mariages fictifs au Japon.
Tout à fait, tout un programme, voilà, vous allez
étonner,
je pense. Oui, voilà, oui. C'est ça, exactement. Alors, bon, j'imagine Corinne que tu vas aborder la notion de pudeur en Chine, en Corée, au Japon, là-dessus, pas de doute,
oui.
Mais avec ces différences. Avec la nôtre, en fait.
Oui, parce que je trouve toujours intéressant de faire des comparaisons.
Bien sûr.
Alors, sur bien des points, c'est différent.
Oui.
Alors, la pudeur est évidemment une notion universelle, mais
d'accord.
Sa forme, son expression et ses limites varient profondément selon les cultures.
Mmh.
Alors, en Asie de l'Est, la pudeur ne se réduit pas à une question de sexualité ou de corps. Elle est avant tout une valeur sociale, morale et relationnelle.
D'accord.
Elle s'inscrit dans le confucianisme, le bouddhisme et le taoïsme et se manifeste forcément différemment de la pudeur telle qu'elle est comprise en Europe, en France, ce que je connais le mieux, où l'individualisme et l'héritage judéo-chrétien nous influencent toujours.
Mmh.
Alors quand je dis l'Asie de l'Est, bah oui, là c'est un peu plus large que l'Extrême-Orient, Corée, Chine, Japon, on peut intégrer le Vietnam, le Cambodge.
Oui, bien sûr, d'accord.
Voilà.
Et alors, du coup, en quoi notre culture judéo-chrétienne détermine notre propre notion de la pudeur ?
Alors, en Europe, ben, même si on n'en a pas conscience, la pudeur est historiquement liée au christianisme.
Oui, je ne suis pas surpris.
Qui a longtemps associé, et associe toujours pour certains, le corps, la nudité, le sexe à la faute morale, voire à la souillure.
Eh ben tiens.
Alors, même si la laïcité dans notre société a transformé ses normes, la pudeur reste largement liée au corps et à ses fonctions physiologiques et à la sexualité. Quand
d'accord.
On parle de pudeur, on pense toujours à ça.
Mmh.
Enfin,
oui.
D'une façon générale.
Okay.
Alors, le vécu de la pudeur, c'est un choix individuel.
Mmh.
Chacun définit ses limites, revendique son intimité, exprime ses émotions, ses opinions ou ses désirs, ce qui est généralement valorisé. On aime l'authenticité chez nous, c'est une vraie vertu.
Okay.
Et ainsi, ce qui peut sembler normal et sain en Europe, en France, peut être perçu comme impudique et dérangeant en Chine, en Corée ou au Japon.
Oui, je le conçois très bien. Sur quoi se fonde particulièrement la pudeur en Chine, alors ?
Alors, en Chine, je dirais en Asie presque en général, la notion de pudeur est fortement liée au confucianisme,
d'accord.
Qui structure la société quand même depuis plus de deux millénaires.
Forcément.
Voilà, donc ça l'influence toujours aussi.
Comme notre propre influence. Quoi.
Exactement, deux millénaires aussi de christianisme. Alors, avoir de la pudeur, c'est lié à la bienséance, c'est-à-dire avoir le comportement approprié en groupe.
Mm-hmm.
Donc ça, c'est quand même une grosse différence.
Tout à fait.
C'est aussi avoir la capacité à avoir de la retenue face à autrui. Alors, nous aussi, on a un petit peu cette pudeur-là, mais beaucoup moins.
C'est beaucoup moins marqué.
Beaucoup moins marqué. D'accord. Alors, la pudeur n'est donc pas centrée sur l'intimité individuelle, mais sur le maintien de l'harmonie sociale.
Mmh.
Être pudique signifie avant tout ne pas mettre autrui mal à l'aise, ne pas trop se singulariser et respecter les hiérarchies d'âge et de statut.
D'accord.
La sexualité est un sujet peu exprimé publiquement, non pas parce qu'elle est perçue comme honteuse, mais parce qu'elle relève du domaine privé.
Mmh.
Et les démonstrations d'affection en public sont très rares, on ne s'embrasse pas dans la rue, et on ne se fait pas la bise pour se dire bonjour.
Oui.
Mais contrairement à l'Europe, la pudeur chinoise et asiatique en général est moins centrée sur le corps nu dans certains contextes, comme dans celle des bains publics, qui sont toujours très populaires, où
vrai.
Le corps n'est pas sexualisé.
Oui, oui, d'accord.
Alors, ce qui est jugé impudique, c'est surtout l'excès d'émotion, l'affirmation trop directe du désir et la mise en avant de soi.
Ouais.
Mais cela ne les empêche pas d'être plutôt extravertis en
d'accord,
Chine, quand même.
Okay, okay. Et Et est-ce que c'est très différent en Corée et au Japon alors ?
Alors, je dirais oui et non. Je vais commencer par la notion de pudeur en Corée, qui est liée aussi au comportement social à cause d'un confucianisme rigoureux présent depuis des siècles. Moins qu'en Chine, mais depuis le 13e, 14e siècle, ça a été confucianiste, la Corée. Elle repose sur le respect absolu des aînés, encore plus. Je dirais que c'est encore plus marqué qu'en Chine. La séparation entre le statut social, alors là en Chine on n'a pas trop ça, et le contrôle de l'image publique, parce que en Corée la pudeur est liée au regard des autres encore plus, et à la peur de la honte sociale qui peut s'étendre à la famille entière.
Et oui.
Alors on peut parler, je dirais, de pudeur paradoxale. Par exemple, il y a une grande retenue sur tout ce qui a trait à la sexualité, aux sentiments et à la vie privée, mais une tolérance envers certaines parties du corps, comme les jambes, chez les femmes qui sont très découvertes, contrairement au décolleté, avec une grande décontraction pour tout ce qui concerne les fonctions physiologiques.
D'accord.
Donc c'est là la pudeur pour nous, occidentaux, qu'on pourrait trouver paradoxale. Mmh. Alors quant au Japon, la pudeur est fondée sur la retenue aussi, le silence, très important, et c'est aussi profondément lié à la honte sociale.
Ouais, ça
on l'a déjà souvent abordé, Elle se manifeste par une discrétion extrême, une économie de mots, une économie de gestes avec peu d'expression émotionnelle. Il est impudique d'exprimer ouvertement ses sentiments, ses opinions ou ses besoins personnels au Japon.
D'accord.
Alors le rapport japonais au corps est aussi plus complexe. La sexualité est rarement évoquée dans la vie quotidienne, donc là même dans la sphère privée. Mais se voit dans la rue au travers de nombreux et gigantesques sex shops.
Oui, voilà.
Et oui, c'est des paradoxes.
C'est un peu paradoxal.
Oui. Et moi, j'ai pas vu, par contre, en Corée ni en Chine, de sex shop.
Ah, d'accord.
Et ça existe, sûrement.
Bien sûr.
Mais au Japon, on en voit beaucoup.
Ah oui, ça,
on en voit
beaucoup. Je suis pas surpris d'entendre ça.
Alors, pour simplifier, je dirais en Asie de l'Est, la pudeur est avant tout relationnelle et sociale pour protéger l'harmonie du groupe. Et en Europe, elle est individuelle et liée à l'intimité personnelle et à la liberté d'expression.
D'accord.
Bon, une petite pause musicale, Didier, s'il te plaît.
Bien
c'est
sûr.
Kenshi Yonezu et Hikaru Utada. C'est japonais.
Marude kono sekai de futari dake mitai da ne. Nante sukoshi da.
Toujours avec Asialogie sur Radio Alpa 107.3. Et alors, du coup, nous revoilà dans la pudeur, l'intimité. Et tu as parlé de décontraction en Asie concernant les fonctions physiologiques. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus là, pour qu'on aille plus loin dans ce concept, si tu veux.
Oui, d'accord. Alors, c'est effectivement un terme, c'est pudique, contractions asiatiques sur les fonctions physiologiques. Alors, je vais comparer la décontraction asiatique avec le vécu de nos fonctions physiologiques particulièrement digestives en France.
D'accord.
Voilà, notre héritage judéo-chrétien nous a toujours fait séparer l'esprit de notre corps. La digestion, le fait d'aller aux toilettes, les excréments sont en général des tabous.
D'accord.
Et je dirais surtout chez les femmes qui n'en parlent quasiment jamais. C'est depuis l'avènement du christianisme que le corps est perçu comme inférieur à l'âme.
D'accord.
Et ça, c'est très différent de ce que vit l'Asie, en fait.
Okay.
Alors, les fonctions de digestion, de défécation, les odeurs sont associées à l'animalité et à la honte chez nous.
Oui.
On évite d'en parler et de les évoquer.
Effectivement.
Et, quand on les évoque, c'est souvent jugé puéril, vulgaire ou déplacé. Okay. Ou alors, voilà, c'est dans le but de faire rire, mais dans ce cas-là, il y a un soupçon de vulgarité quand même, au minimum.
Ce que tu veux dire. Hein.
Alors la digestion rappelle que l'humain est un corps périssable, et ça c'est pas bien, nous on n'aime pas ça, que les corps périssent, ce qui contredit l'idéal chrétien de maîtrise de soi et d'élévation spirituelle.
Bien madame.
Voilà, alors c'est pourquoi chez nous, les toilettes, parce que ça a des conséquences sociales et des conséquences sur la santé qu'on n'imagine pas, chez nous, en France, je ne vais parler que de la France, les toilettes sont rares, elles sont cachées, il faut les trouver. Au Mans, je vous invite à chercher les toilettes.
Oui, c'est vrai que...
Elles sont isolées, et quand elles sont visibles, elles sont fréquentées et mal entretenues.
Oui, on va dire ça comme ça.
Voilà.
C'est bien.
Donc elles sont rares, cachées, isolées, et celles qui sont visibles, elles sont mal entretenues.
Oui, d'accord.
Alors au Mans, je tiens quand même à le dire, il n'existe que 6 toilettes publiques dans tout le Mans, qui ne sont pas toujours accessibles. Je parle aux personnes à mobilité réduite, aux mamans avec poussettes et tout ça. Comme si c'était pas un réel besoin d'aller aux toilettes, alors que l'absence de toilettes est considérée par l'OMS comme un vrai problème de santé publique. Il faut le savoir.
D'accord, j'avais pas cette vision-là, mais on fait bien d'en parler. Donc, du coup, j'imagine, par contre, à l'inverse, Corinne, en Asie, on a donc une autre vision du corps. Alors.
Mais oui, et c'est surtout vis-à-vis de nos besoins physiologiques qui sont exprimés et discutés ouvertement en Asie, parce qu'ils sont intégrés à des logiques de santé, de bien-être et d'équilibre. Contrairement à l'Europe, la Chine, la Corée et le Japon n'ont pas développé une opposition morale aussi forte entre l'esprit et le corps. C'est ça la différence. Le corps y est vu comme un système en interaction avec la nature, non comme un obstacle à la dignité humaine. Alors en Chine et en Corée, l'alimentation et la digestion sont au cœur de la santé, vraiment, au Japon aussi. Et selon la médecine traditionnelle chinoise, la rate et l'estomac sont au centre de la production de l'énergie vitale, et avoir une bonne digestion conditionne la santé physique, mentale et émotionnelle. Donc, il faut aller aux toilettes quand on a envie et pas se retenir et pas...
D'accord.
Alors, en Asie, on a la culture du corps fonctionnel.
Okay.
Il est courant de demander « As-tu bien mangé ?» ou « Tu digères bien ?» plutôt que dire « Comment ça va ?» comme ça, on pose ces questions.
Mais le « ça va », il vient de là quand même aussi.
Oui, c'est vrai.
Le « ça va », c'est vrai. Est-ce que tu as un bon transit, quoi.
Exactement.
À la base. Okay.
Et la digestion est perçue comme un baromètre de l'état général, et on évoque ces sujets très facilement.
Okay.
Alors, dans les conversations quotidiennes, il est fréquent d'évoquer son transit sans que ça provoque de malaise.
D'accord.
Et aller aux toilettes est une nécessité assumée.
Okay.
Et c'est pour cela, surtout en Corée et au Japon, que les toilettes publiques sont gratuites, très propres, confortables, accessibles à tous, et il y en a partout.
Et ça, j'admets que c'est
gratuite.
Quand même bien agréable.
Et c'est bien agréable.
C'est vrai
ça,
que c'est un peu le parcours du combattant.
Donc là je pense que les Asiatiques doivent être très mal quand ils viennent chez nous. Parce que
c'est sûr que pour eux, ça doit être très différent.
Ça doit être très difficile même, je dirais.
Alors justement, Corinne, les toilettes japonaises sont très célèbres pour leur confort. Hein.
Oui.
Il y a même eu le film de Wim Wenders, Perfect Day, très beau film sur un agent d'entretien de toilettes publiques au Japon qui fait de son travail une vraie mission.
Oui, c'était un très beau film, ça, Didier, c'est vrai. Oui, c'est un peu différent. C'est entre le naturel du corps et l'obsession de la discrétion pour ne pas déranger les autres. Donc, ils ont inventé des toilettes particulière. Mais le bien-être du transit est partout quand même au Japon. Ah, ça se voit dans les magasins avec des produits bons pour l'intestin omniprésents. Ah, et puis les toilettes prennent de la place partout. Partout. Alors, on en trouve de plus en plus en Corée et en Chine, hein, des toilettes à la japonaise. Et on commence à en trouver en France. Et il y a notamment une petite entreprise française qu'on peut trouver sur le net. Ça s'appelle Boku. B-O-C-U-L.
D'accord.
Et c'est un petit système de comment on appelle ça la lunette, équipée d'un jet pour se laver.
Okay. Ah ouais, j'imagine.
Voilà,
bien,
ça s'appelle Boku et c'est pas une blague.
Ouais, non.
C'est vrai.
C'est rigolo. Okay.
Voilà. Non, mais bon, là, le siège Boku n'est pas chauffant.
Ah. Hein,
mais les toilettes japonaises, on a droit. La lunette est chauffante. Il y a des jets d'eau pour se laver, de l'air chaud pour se sécher, de la musique et du bruit pour masquer les sons, une propreté extrême pour un confort maximal. Moi, je dis que c'est une super, super expérience.
Ah non, mais c'est intéressant,
alors, c'est une super expérience.
Est-ce que cette grande différence, Corinne, culturelle, est visible dans les livres, dans les films, dans les séries? On peut aussi le noter comme ça?
Mais oui, et c'est précisément dans toutes les formes de fiction que ça devient très visible et que l'on peut comparer nos conceptions et nous rendre compte ce qu'une société accepte de montrer, de nommer et de partager. En Europe, le corps et ses fonctions physiologiques est quasi absent.
Mmh.
C'est très rare. Alors si, on voit souvent des hommes uriner de dos, des femmes des fois sur les toilettes, mais bon, c'est des films...
C'est pas vraiment ce qu'on aborde souvent.
C'est pas du tout comme ça. On s'en sert en Europe pour, je dirais, c'est pour une transgression, je veux dire. Quand c'est montré les toilettes, c'est une transgression.
Bien sûr.
Et, ou alors, c'est pour être comique et un comique transgressif.
Mmh.
Et, ou alors, c'est pour évoquer une humiliation ou un corps souffrant.
Mmh.
Voilà, les toilettes sont montrées comme un lieu honteux ou comique.
Oui.
C'est ça. Le corps doit rester esthétiquement contrôlé en Europe. Mais en Asie, c'est tout le contraire. Voir le corps naturel et en parler, c'est rappeler qu'on est vivant et souligner la fragilité humaine. Et ça permet aussi de mettre en évidence la condition sociale et d'ancrer le récit dans le réel.
Mmh.
Alors, c'est particulièrement vrai dans le film Parasite de Bong Joon-ho.
Oui.
Où on se rend compte de la place de ce que c'est tout ça, la fonction physiologique, tout. Enfin bon. Et puis dans les séries,
On
voit tout ça.
Bon, voilà. C'était étonnant comme chronique ça, mais c'était bien de l'avoir abordé, je trouve.
Merci.
C'est intéressant.
Bon, on va écouter, tu nous as prévu pour annoncer ta chronique, My Happy Marriage, c'est ça ?
Voilà.
Qui est l'opening d'un animé.
Oui, tout à fait.
Anata no Soba, c'est ça ?
Oui, et donc du coup, je pense que c'est bienvenu vu la suite de l'émission après.
Merci Didier. On écoute Anata no Soba. Vous êtes toujours sur Radio Alpa ?
Oui.
Dans Asialogie ?
Voilà.
Bon Didier, après le concret des toilettes, on va passer avec toi au virtuel.
Exactement.
Vraiment. Alors explique-nous ce phénomène des mariages fictifs au Japon.
Ah, alors.
Un phénomène bien intriguant.
Oui, tout à fait, totalement. avant de parler de mariage fictif virtuel, pardon, je vais aborder la conception qu'ont les Japonais du mariage en général, en fait. Un peu de différence avec la nôtre, quand même.
Oui.
Alors, au Japon, le concept de mariage fictif est à la fois une réalité sociale marginale et un thème récurrent dans la littérature, le cinéma, les mangas, les dramas. Contrairement à la conception occidentale qui associe le mariage quasi exclusivement à l'amour romantique ou à la fondation d'une famille.
Oui, c'est notre particularité. Ça.
C'est ça. Le mariage au Japon est souvent envisagé comme une solution pragmatique, un compromis social. Le mariage légal peut être stratégique pour des raisons pratiques, comme obtenir un visa ou bénéficier d'avantages fiscaux ou procéder à un héritage.
Voilà. Ah oui, alors il y a plusieurs types de mariages dans la société japonaise.
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est pas les mariages d'amour, non. Pas tant que ça.
Là, il y a bien sûr de vrais mariages d'amour quand même. Hein. Mais ils ne sont peut-être pas les plus nombreux. La pression sociale liée au confucianisme pour se marier est forte, surtout pour les jeunes adultes et les femmes après un certain âge.
Donc... Oui, on avait parlé de ça dans La fille de la supérette.
Exactement. Alors dans ce contexte...
Avec Laura.
Voilà. Dans ce contexte, un mariage arrangé peut apparaître comme une solution pragmatique pour les célibataires sous pression familiale, car il permet de calmer les critiques et de protéger l'image sociale, qui a beaucoup d'importance, on le sait. Dans beaucoup de situations, le mariage est un compromis entre liberté individuelle et les exigences collectives. Ça illustre la complexité des rapports sociaux au Japon.
Alors, quels sont des vrais mariages avec des vrais personnages fictifs? Donc des vrais faux vrais mariages.
Ah oui, c'est compliqué. C'est un phénomène culturel très spécifique au Japon qui mélange la culture geek et otaku, qu'on peut définir comme étant une passion interne pour les univers de l'animation, du manga, des jeux vidéo. Et les conséquences de cette passion peuvent conduire à l'isolement social avec une fuite de la vie réelle
oui.
Et amener certaines personnes à choisir de se marier symboliquement à des personnages de fiction. On les appelle mariages en deux dimensions.
Ah oui.
Oui. Ces mariages ne sont bien sûr pas légaux, mais ils sont célébrés avec une véritable cérémonie, avec des alliances, des photo semblable à un mariage réel, c'est marginal, mais révèle beaucoup sur les rapports du corps à la fiction, à la société.
Alors, quelles sont les causes de ce phénomène émergent ?
Alors, c'est à cause de la place de la fiction dans la vie quotidienne des enfants et celle des adultes. Hein. Les personnages de manga ou d'anime ont des personnalités très détaillées et idéalisées, ce qui crée des liens émotionnels forts avec leur public. Il faut rappeler que la société japonaise valorise la discrétion dans les relations humaines et certains jeunes adultes éprouvent de la difficulté à nouer des relations intimes réelles. Et que ce soit par timidité, pression sociale ou rythme de vie, les personnages fictifs deviennent alors des compagnes, des compagnons affectifs, idéaux, qui ne les rejettent pas. Le mariage permet aux participants de valider son engagement et sa loyauté envers ce personnage fictif.
Alors, est-ce qu'ils sont vraiment heureux dans ce mariage, selon eux ?
Oui, ils sont très motivés en tout cas, hein, car leur personnage favori est vu comme un véritable partenaire émotionnel dans une relation idéale, sans compromis ni conflit.
C'est clair.
Eh oui, il y a moins de conflits. C'est aussi leur moyen de résister aux pressions sociales et de rester célibataire tout en respectant un rituel culturel dans les contraintes d'un vrai mariage, sans les contraintes, hein, bien sûr. Et en plus, une expérience communautaire. Des mariages sont organisés par des associations de fans, ce qui permet de partager cette expérience avec d'autres passionnés. C'est vu comme une extension des pratiques otaku, et certains chercheurs y voient une réponse créative à la solitude et à l'anxiété relationnelle dans une société où la pression pour réussir est très très forte.
Ben oui, ces histoires de mariage virtuel sont des thématiques fréquentes dans les mangas et les jeux vidéo, et ça doit encourager le phénomène, j'imagine.
Oui, Corinne, il existe des jeux de drague, des dating sims, qui permettent de vivre dans des mariages virtuels avec des personnages fictifs de manière interactive. Il y a notamment le jeu Tokemiki Memorial, où le joueur peut obtenir un happy ending avec des personnages choisis, et le jeu Love+, plus, où le joueur interagit avec une petite amie virtuelle.
Ouh.
Ah, ces jeux permettent une illusion, l'illusion d'un mariage d'amour, hein, avec des rituels, des anniversaires et des interactions quotidiennes qui reproduisent pour le joueur l'expérience symbolique du mariage avec un personnage fictif. Des personnages sont ainsi devenus emblématiques de ce phénomène et ils sont bien sûr mariés à de nombreux fans.
Oui, ils sont polygames, forcément.
Voilà, c'est ça.
Alors, est-ce que ça pose un vrai problème, ces mariages fictifs ?
Alors écoute, c'est pas forcément un problème au sens moral, mais ça illustre des problèmes sociaux liés aux relations interpersonnelles et à la santé mentale. Car si le mariage avec un personnage fictif offre une forme d'affection sécurisée, il ne remplace pas une interaction humaine réelle, ce qui renforce l'isolement. Selon des études sociologiques, le Japon connaît une augmentation des célibataires volontaires et des personnes dites Ikikomori,
on avait déjà parlé de la saison 1 d'Azur Uchiha,
totalement de la société. Le mariage fictif est un autre symptôme de cette tendance qui permet d'éviter les relations réelles avec des conséquences psychologiques graves, comme celle d'empêcher le développement de compétences émotionnelles nécessaires pour de vraies interactions humaines, avec au final un risque d'isolement durable.
Est-ce qu'il y a d'autres conséquences ?
Oui. Comme les sectes, il y a des conséquences économiques car les mariages fictifs s'accompagnent toujours de dépenses énormes avec des figurines, des jeux et pour toutes sortes de produits dérivés par des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Et le pire, c'est que des créateurs de ce type de contenu renforcent ces pratiques sans scrupules, on l'imagine bien, en produisant des personnages hyper idéalisés, ce qui accentue le fossé entre fiction et réalité, contribuant à l'exclusion sociale de certains jeunes adultes. Voilà, tout
oui,
simplement.
Ça fait peur un peu, Didier, ta chronique.
Un petit peu, hein, moi
bon,
ça m'a effrayé.
Azéologie, c'est fini les amis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, nous réécouter samedi matin à 9h30, mercredi à 13h, et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes, et bien sûr sur radioalpa.com.
Voilà.
Rendez-vous jeudi prochain à 12h, toujours sur Radio Alpa 107.3 aussi, FM Le Mans.
À
prenez soin de vous.
Semaine prochaine. Salut. Avec grand plaisir. Et c'est pas fictif.